Je le dire bonjour général, je ne pourrais pas trop dire bonjour à chacun, tellement on n'est pas nombreux ce matin. Mais ça tombe bien, enfin, ça tombe bien, parce que on va faire un peu de randonnée spirituelle et pédestre en même temps ce matin. Et c'est toujours mieux de faire la randonnée en petit groupe, parce que nombreux, il y en a qui traînent, on n'avance pas bien. Donc, même si on est peu ce matin, on va quand même la faire ensemble. Alors, nous sommes le 3 janvier donc, premier dimanche de la nouvelle année 2021. Et peut-être comme vous, moi j'ai été habitué depuis que je suis chrétien à des messages bien spécifiques donc ce premier dimanche de l'année. Finalement, on entend des messages qui encouragent à prendre des résolutions et pour la nouvelle année. Et j'en ai pris, peut-être vous aussi, et bien des fois... J'en ai tenu que très peu, et parfois pas du tout. Alors j'ai appris une chose, c'est que lorsqu'on prend des résolutions, c'est une bonne chose quand on a un but précis, quand on sait où on veut aller. Et si par exemple vous faites une randonnée, avec l'objectif d'aller jusqu'au bout de la randonnée, votre résolution de ne pas traîner le pas en route, de ne pas vous laisser distraire, vous sera utile, parce que vous savez où vous allez. Mais si vous n'avez pas cet objectif, ben, à quoi bon prendre la résolution de ne pas s'arrêter, de ne pas se laisser distraire en chemin. Donc ce matin, je ne vais pas nous encourager à rajouter d'autres résolutions sur celles qu'on aurait déjà prises en 2020 ou les années antérieures, et qu'on n'aurait pas tenu, ce qui ferait augmenter notre culpabilité au final, si on ne les respectait pas. Mais si j'ose quand même nous en recommander une, permettez-moi, c'est parce que ça n'en est pas une réellement, parce qu'il s'agit de celle que Dieu lui-même a prédéfinie pour nous, à savoir être transformé à l'image de Jésus. Romains 8, 29. C'est la résolution. Celle que si nous gardons à l'esprit, toutes les autres que nous pourrions faire pour atteindre par nous-mêmes, pour atteindre la destination fixée par Dieu, et bien toutes celles-là, elles seront entre guillemets un peu plus naturelles. Elles se feront un peu plus naturellement. On va donc se représenter la vie chrétienne comme une randonnée de niveau entre moyen et difficile dans la montagne. Et donc, l'objectif est d'arriver au sommet. En ramenant avec nous les plus belles choses qu'on aurait trouvées en chemin. Ça peut être des photos prises, des objets insolites, des souvenirs qu'on va ramener au sommet. Et sur ce chemin de randonnée donc, ce chemin de randonnée, à chaque fois que je verrai un panneau indiquant un point de vue, j'irai voir et faire peut-être une photo, et j'imagine vous aussi, vous serez curieux de voir la beauté du paysage. Mais parce que parfois, ça paraît un peu... ce n'est pas toujours facile la randonnée, mais on veut quand même arriver au sommet, on va de temps en temps jeter un coup d'œil vers le sommet, pour avoir un aperçu de ce qui nous reste à parcourir. Et nous savons que nous allons y arriver. Parce que avant de partir, avant de commencer la randonnée, on a choisi un guide, un expérimenté de la montagne. Il a tout ce qu'il faut, il a la carte, il a le GPS. Il a en temps réel les dernières infos sur la météo et avec les bonnes prévisions. Et bien sûr, sur son conseil avisé, nous avons pris les provisions nécessaires pour la route. Je veux qu'on garde cette image à l'esprit pendant que nous allons partager ce que j'ai sur le cœur ce matin. Je voudrais, avec cette image en tête, nous encourager, vous encourager à ce moment de l'année, début de nouvelle année, peut-être la seule période de l'année pendant laquelle le monde essaye de se réinventer, le monde essaye d'envisager de faire des choses différemment, voire mieux, période où on essaie de penser positivement, de retenir que le côté positif des choses, période dans laquelle même les cœurs les plus impénitents se laissent emporter à quelques belles espérances pour la nouvelle année. Je voudrais donc nous encourager à regarder dans trois directions sur le chemin de notre randonnée. Nous allons regarder derrière nous, devant nous, et nous allons regarder au-dessus de nous. Et à cette période de l'année, j'avais dit que nous sommes au énième point de vue de notre randonnée, dans la montagne. Prenons donc le temps de contempler. Juste une petite parenthèse. Pourquoi je nous exhorte à regarder dans le passé, à regarder vers Dieu et à regarder vers le futur à cette période de l'année. Il est vrai, on peut le faire n'importe quand, à n'importe quel moment de l'année, ça dépend de chacun, tous les semestres, les trimestres, chaque jour, chaque moment, si on veut. Parce que, en réalité, c'est quoi 2021 ou 2020 et c'est la somme de chaque jour. Et si chaque jour on applique ce principe, eh bien, à la fin de l'année, on peut aussi tout bonnement le faire. Et à mon sens, il est bien de regarder dans ces trois directions au moins une fois par an pour avoir un aperçu général. Et l'année, un an, c'est l'unité de temps, je pense, la plus appropriée pour dater des choses assez générales, pas trop court, pas trop long. Sur un an, on peut voir des changements notables dans nos vies spirituelles, physiques, la croissance de nos enfants. C'est sur une année que, par exemple, les entreprises font leur bilan comptable. C'est sur une année également que notre employeur apprécie notre travail et décide de nous augmenter ou pas le salaire. On exprime notre âge en termes d'année et non pas en termes de jour ou de mois. Ce serait d'ailleurs très drôle de demander à quelqu'un son âge en termes de nombre de jours ou de secondes, de minutes, je sais pas quoi d'autre. On retient aussi un peu plus facilement l'année des faits qui nous ont les plus marqués. Et pour ceux qui sont un peu passionnés d'astronomie, notre Terre fait le tour du Soleil complet en un an. Et donc, là où je vais vous amener, donc, c'est dans le Deutéronome, le cinquième livre de l'Ancien Testament. Deutéronome signifie la seconde loi, parce qu'il est répété plusieurs aspects importants de la loi de Dieu donnée en Exode et en Lévitique. Et dans ce livre, on retrouve le principe dont je vous parle, de regarder dans ces trois directions. Comment Moïse a écrit le Deutéronome, il peut être découpé en trois parties. La première, des chapitres 11, chapitre 1 à 11, pardon, c'est regarder en arrière, regarder dans le passé, dans lequel Moïse va rappeler aux Israélites de regarder à la fidélité de Dieu pendant leurs 40 années passées dans le désert. La deuxième partie, chapitre 12 à 31, 20 chapitres donc, la première partie, c'était 11 chapitres, regarder en arrière. La deuxième partie, regarder vers le haut, les chapitres 12 à 31, 20 chapitres, dans lesquels Moïse va exhorter ses frères, les Israélites, à se tourner vers Dieu à travers l'observance de ses lois. Et la troisième partie, se regarder vers l'avant, vers le futur, vers l'avenir. Ce sont les chapitres 32 et 33, juste deux chapitres dans lesquels Moïse va annoncer les merveilles que Dieu fera dans le futur. Juste une petite remarque sur ce découpage et les nombres du chapitre qui sont attachés à chaque partie. On n'a que deux chapitres seulement pour ce qui est de regarder vers l'avant. Contre 20 chapitres pour ce qui est de regarder à Dieu. Et on a 12 chapitres pour ce qui est de regarder aux choses qui sont déjà passées. C'est un peu comme pour surligner que le plus important pour nous, c'est de nous attacher premièrement à Dieu. Il y a plus d'instructions qui sont données quant à la relation que nous devons avoir avec Dieu. L'écouter, nous appuyer sur sa parole, à la fois ses commandements et ses promesses, et nous attendre à lui. Et ensuite, regarder derrière nous et compter les bienfaits de Dieu pour nous, voir comment il nous a conduits dans nos épreuves, comment il nous a délivrés de nos tentations. Si nous prenons le temps de regarder en détail, détail par détail, ce qu'il a fait pour nous dans le passé, nous ne pourrions jamais laisser passer un seul jour sans le remercier. Y compris pour toutes les choses dont on n'y pense même plus, parce qu'on en est un peu trop habitué, on les prend pour des acquis. Et pour la suite des temps, pour ce qui est de regarder vers le futur, nous savons bien sûr quelle est notre destination. On veut aller au sommet de la montagne. On veut ressembler à Christ. Ça, c'est ce que Dieu lui-même a prévu pour nous. Et ça, c'est l'essentiel. Mais nous ne savons pas tout ce qui nous attend en chemin. Nous ne savons pas tout ce que nous allons rencontrer sur notre chemin de randonnée. Et Dieu juge bon de ne pas nous les dévoiler. Mais il veut que nous fassions confiance. Il se contente de nous montrer la destination sans donner trop de détails. Parce que là, il nous donne le juste nécessaire, la foi. Alors, premier point, encouragement à regarder dans notre vie passée, c'est ce que Moïse fait. Donc, le chapitre 1 à 11. Il pousse les frères à se remémorer plusieurs événements. Est-ce que vous pourriez citer quelques événements dont parle Moïse et que les Juifs auraient vu en Égypte ou au désert, des choses que Moïse va citer dans le Deutéronome? Est-ce que il vous vient dans votre souvenir des choses que Dieu a faites pour son peuple? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple depuis l'Égypte jusqu'à la rentrée dans la terre promise? En termes de prodiges, en termes de délivrance, qu'est-ce qu'il a fait? Ça en est une chose, oui. Il a libéré
l'esclavage.
Il a délivré de l'Égypte, ouais, par des prodiges, par des dix plaies. Il leur a fait traverser le chemin, la mer Rouge.
Les tables de la loi.
Il leur a écrit les tables de la loi. Il leur a donné la loi. Oui, il y a eu de la rébellion d'Israël contre Dieu et contre les serviteurs de Dieu, Moïse et Aaron, à plusieurs reprises, hein, quand le peuple réclamait de l'eau, des trucs comme ça. Et ils ont eu droit au châtiment de Dieu. Dieu les a châtiés. Et ça, Moïse n'omet pas de le citer et de rappeler cela à la mémoire de ses frères. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose encore? Ils ont eu, oui, ils ont eu de la provision, tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient miraculeusement de la manne. Ils avaient aussi des cailles qu'ils pouvaient manger. Est-ce qu'il vous vient encore des choses en tête? Oui, alors ça rentre dans la délivrance de l'Égypte. La loi, ça a été dit déjà. ça fait rentrer dans les châtiments, et puis ça c'était la guérison quand il fallait regarder le serpent. Alors, je vais lire Deutéronome 1, 29. C'est Moïse qui parle. « Ne vous épouvantez pas, et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à l'arrivée en ce lieu. » Alors, c'était à la frontière de la terre promise. L'Éternel, de Deutéronome 2:7, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. 8, 2 à 4. Souviens-toi tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu gardais ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point épuisé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant 40 années. Ça en fait 40 années. Alors, il y a plusieurs passages comme ça que Moïse, je vous invite à le lire, hein, au moins les 11 premiers chapitres, où Moïse va rappeler tellement d'événements grandioses que le peuple a traversé et à travers lesquels Dieu leur a toujours été fidèle. Donc, la question que je vous pose, je vais rajouter d'autres choses. Donc, on a dit qu'il y avait la délivrance de l'Égypte avec les 10 plaies, le chemin dans la mer Rouge, mais il y a aussi l'orientation, comment Dieu a guidé son peuple dans le désert, nuit et jour, dans la nuit pendant le jour et dans le feu pendant la nuit. Il y a eu la victoire sur leurs ennemis. Ils ont gagné des combats, des luttes, ils les ont gagnés. Ils en ont perdu aussi quand ils s'étaient rebellés contre Dieu. Mais toutes celles où Dieu était avec eux, ils les ont gagnés. On a dit aussi, Dieu a pourvu à leur provision, nourriture, vêtements, souliers. Il a même dit, un peu plus tard, vers la fin de Deutéronome, au chapitre 29, tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Comment Dieu a pris soin d'eux, même dans les petites choses. On a cité aussi la rébellion d'Israël, des Israélites contre Dieu et contre Moïse. Et on va aussi parler de la fidélité de Dieu, comment ils ont goûté à la fidélité de Dieu pendant ces 40 années au désert, malgré leurs multiples rébellions contre Dieu. Regardez donc en arrière, se regarder à toutes ces choses que Dieu a faites pour nous. Comment Dieu nous a guidés. Et c'est un moyen pour nous de fortifier notre foi. Bien sûr, on peut se rappeler les promesses de Dieu pour nous dans la Bible, ou prendre les encouragements d'une frère, d'une sœur, quand on traverse des moments difficiles. Mais le meilleur moyen pour fortifier sa foi, c'est de repasser en revue, dans nos pensées, toutes les choses que nous avons expérimentées avec Dieu. Sommes-nous aujourd'hui en train de lutter contre une mauvaise habitude, un péché avec le sentiment de ne pas arriver à s'en débarrasser? Regardons en arrière, vers notre Égypte, d'où Dieu nous a sortis et où nous sommes aujourd'hui. Comment nos vies ont été changées? Toutes ces choses charnelles après lesquelles on courait sont maintenant à nos yeux vanité, futilité, grâce à la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. L'œuvre de Dieu pour la vie de chacun de ses enfants est toujours en cours. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Avons-nous des doutes et ne comprenons-nous pas certaines choses que Dieu a permis que ça nous arrive? Regardons encore une fois en arrière et admirons comment il nous a conduits, il a planifié, il a arrangé certaines circonstances pour qu'elles concourent à notre bien. Sommes-nous retombés dans un péché, dans le même péché? Regardons aussi en arrière. Comment le Seigneur nous a pardonné par le passé? Lorsqu'il nous a pardonné, savait-il que nous retomberions dans les mêmes travers? Ou était-il surpris de nous voir retomber dans ce même péché? Non, rien ne le surprend. Le Seigneur nous pardonnera encore si nous le lui demandions. Regardons notre passé avec gratitude cependant. Ça fortifiera notre foi. Soyons reconnaissants, nous l'avons chanté ce matin. Soyons reconnaissants de la miséricorde de Dieu. Lorsque nous repensons à tous nos échecs par le passé, nous apprenons aussi à être indulgents envers nos frères et nos sœurs qui commettent les mêmes erreurs. Mais attention, il y a trois manières selon lesquelles nous ne devons pas regarder en arrière. Paul dit en Philippiens 3:13, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Si nous regardons en arrière de la mauvaise manière, nous pourrions soit nous plaindre, soit être découragés, soit nous vanter de ce qu'on aurait accompli. Moïse, dans le Deutéronome, dans la première partie des versets 1 à 11, que je vous invite à lire, il ne cache pas la punition qu'il a écopée de Dieu. Dieu l'a empêché en effet de rentrer dans la terre promise parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et quand on lit la suite du Deutéronome, on va voir que Moïse n'a pas gardé dents contre Dieu. Il n'était pas grognon, il n'était pas renfrogné, il n'était pas colère. Mais il s'est humilié, il a accepté la décision de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu a toujours raison. Mais, petit clin d'œil pour nous ce matin, on peut voir combien Dieu est vraiment bon. Même s'il a empêché Moïse de rentrer dans la terre promise, 1500 ans plus tard, il fera marcher Moïse sur cette même terre, mais encore mieux, quand son fils sera sur la terre. C'est lors de la transfiguration sur le mont des Oliviers. Ne soyons donc pas grognons lorsque nous regardons en arrière et que nous voyons des choses qui pour nous étaient légitimes, étaient évidentes, mais que Dieu a refusé de nous les accorder. Également, si nous regardons en arrière et que nous pensons à nos échecs, nous allons être découragés. Croire que nous sommes inutiles et que nous sommes des échecs de la vie, qui avons perdu plusieurs années de notre vie. Nous ne devons pas regarder en arrière des choses qui nous font nous décourager. Également, nous ne devons pas regarder en arrière des choses qui nous font avoir la grosse tête. Nos réalisations, nos espoirs. Mais nous avons besoin de regarder en arrière avec gratitude à Dieu, tout le temps, pour tout ce qu'il a fait pour nous par le passé. L'apôtre Pierre dira que celui qui ne regarde pas derrière de la sorte, mais qui oublie la purification de ses péchés, est aveugle et il ne verra pas loin. 2 Pierre 1:9. Alors, question pour nous ce matin. Courant 2020 ou un peu plus tôt, un peu plus loin derrière, pouvez-vous partager ce matin quelque chose que Dieu vous a fait, quelque chose que vous avez expérimenté, la main de Dieu, la grâce de Dieu? Si quelqu'un a quelque chose à dire, il est libre de prendre 2 minutes pour le dire et ensuite de continuer. Thank you. je vous prends un peu de cours, mais je sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans vos vies et ça vous demande du temps de réflexion. Et vous les connaissez, Dieu les connaît. C'est pas obligé de les partager ce matin. Moi aussi, j'en ai des choses, mais je ne vais pas les dire tout de suite parce que le temps avance. Juste pour clôturer cette première partie, si nous devons nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous, soyons aussi encouragés par le fait que lui aussi se souvient de ce que nous avons fait pour lui. Dieu voulait exterminer ce peuple dans le désert à plusieurs reprises. Mais au souvenir de ses serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, à qui il a fait une promesse, il s'en est répandu. Prenons le temps aussi maintenant de regarder vers le haut. C'est la deuxième partie. Le chapitre 12 à 31 du Deutéronome. Moïse va répéter les lois, les ordonnances de Dieu. Les 10 premiers commandements, d'autres lois sur la propriété, les mœurs, les lois morales, les lois cérémonielles et les lois relatives à la vie, à la liberté. Quelqu'un a dit ceci. À travers la loi de Dieu, l'homme voit son besoin. En plus donc de regarder derrière, nous devons aussi regarder vers le haut. Et c'est là que notre guide nous est précieux dans notre chemin de randonnée. Il va nous rassurer, il va nous encourager pour que nous continuions, même si ça devient un peu plus difficile. Et nous allons le suivre parce que il a vraiment l'air enchanté de vouloir nous faire voir, découvrir d'autres choses. Je lis en Deutéronome 11, 18. Mettez dans vos cœurs, dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Et je lis aussi Deutéronome 17, 19. En parlant du futur roi d'Israël, il devra l'avoir sur lui, la loi, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans le royaume, dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Les lois de Dieu devaient être pour les Israélites comme collées à leur peau. Ils devaient constamment la voir, cette loi, la lire ou l'écouter. C'est en l'observant que Dieu allait faire d'eux un peuple saint, mis à part pour lui, et coupé de toutes les pratiques idolâtres ou méchantes des autres peuples. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'est faite chair. Elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité, en la personne de Jésus. Et comme Pierre, André, Jean et Jacques, nous pouvons nous aussi contempler la gloire de notre Seigneur Jésus dans sa parole, dans sa vie, mais aussi dans la vie des frères et des sœurs. Et je pense qu'il y a encore tant de choses glorieuses à découvrir chez notre Seigneur et Sauveur. Et j'espère que nous avons tous faim et soif de cela. Parce que c'est à son image que le Saint-Esprit cherche à nous transformer. Lorsque nous voyons la gloire du Seigneur, nous sommes humiliés. Nous reconnaissons notre besoin. Nous reconnaissons que nous sommes tellement faibles, tellement, j'ai envie de dire, minables. Nous sommes humiliés parce que nous voyons notre besoin. Et là, c'est le secret pour rester humble, de toujours regarder à ce qu'a été la vie de Jésus. Lorsque nous regardons à Jésus, il est impossible d'être orgueilleux. L'homme devient orgueilleux quand il commence à regarder la vie des autres. Il s'imagine être meilleur que les autres. Lorsqu'un frère regarde un autre, il s'imagine être plus utile entre les mains de Dieu ou avoir reçu plus d'onction que son frère, eh bien, il tombe automatiquement dans l'orgueil. Nous devons tous nous humilier devant le Seigneur en nous prosternant dans la repentance et bien plus bas que terre devant lui. C'est le seul endroit sûr d'où on ne peut pas tomber. De même que Dieu avait bien fait comprendre aux Israélites que s'ils restaient fidèles à Dieu, lui, Dieu, aurait un regard favorable sur eux. Il les bénirait abondamment, richement. Nous aussi, nous ferions, bien sûr, le plaisir du cœur de notre Seigneur. Nous le réjouirons si nous gardons nos regards sur lui. Ce n'est pas en regardant en nous que nous verrons notre péché. En regardant en nous, nous arriverons seulement à nous décourager. Mais c'est en regardant à Jésus et en voyant sa gloire. Prenons le temps de regarder en haut. Et la dernière partie, regardons en avant. Moïse va prophétiser dans les chapitres 32 et 33 sur l'avenir lointain d'Israël et les jugements qui l'attendent. Mais il va aussi dire comment Dieu va se révéler à d'autres peuples pour les racheter. Deutéronome 32-21. Car ils ont excité ma jalousie, c'est Dieu qui parle, car ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point un Dieu. Ils m'ont irrité par le vaines vidoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. C'est de nous qu'il est question. Nous faisons partie de ces gens qui n'étions pas du peuple de Dieu au début. Nous ne sommes pas des Juifs. Mais Dieu avait dans son plan de nous intégrer déjà dans ses plans, dans ses desseins. Et il a fait parce qu'il nous aime. Deutéronome 32, versets 2 à 3. Il aura de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, Dieu aime les peuples. Et en ce qui concerne le futur, frères et sœurs, cherchez à regarder à l'avenir, à comprendre ce qui va arriver. C'est ce qui est, je pense, le moins évident à cerner. Parce que personne ne peut prévoir ce qui va arriver, justement. C'est donc quelque chose qui requiert la foi, de regarder vers l'avant. La foi comme l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1. Hélas, nous manquons bien parfois cette foi. Mais nous avons à regarder vers l'avant, vers le futur. Non seulement parce que Dieu a des choses qu'il a préparées dans le futur pour nous, mais aussi parce que nous sommes dans un monde qui est sans cesse en mouvement, qui est sans cesse agité, et dans lequel nous avons besoin de sagesse, de discernement, de sobriété pour nous conduire. D'ailleurs, si vous restez accroché à votre écran pour suivre les infos en ce moment, vous allez très vite déprimer, à moins d'une demi-heure, à cause de tout ce que nos experts, entre guillemets, annoncent comme crise pour les prochaines années. L'économie, l'endettement, les activités, le climat, les relations sociales et tout. Bref, c'est hécatombe. Ce qui a à venir, c'est pas beau du tout. Et nous, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas concernés. Bien au contraire, nous avons besoin d'un travail pour subvenir à nos besoins, Nous avons besoin de nous déplacer. Nous avons besoin d'éduquer nos enfants. Mais Dieu soit loué. Parce que toutes ces crises qui vont venir, elles ne nous étonnent plus. Elles ne nous surprennent pas. Parce que sa parole nous met bien en garde depuis des siècles sur le fait que les temps de la fin seront difficiles. Mais soyons rassurés et toujours à l'écoute du Seigneur qui nous fait aussi cette promesse comme à son peuple à la frontière de la terre promise. Je lis à Deutéronome 32, 46 et 47. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de les recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Nous ne savons pas quand nous allons quitter ce monde, mais avant que le Seigneur ne revienne, regardons en avant pour faire des choses utiles pour lui sur cette terre. Alors que la plupart des gens dans le monde appréhendent 2021 avec peur, avec angoisse, nous faisons-le avec foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Cette parole, frères et sœurs, prenons-la à cœur. Elle est notre vie. Et Jésus est celui qui nous fera traverser sereinement n'importe quelle crise qu'on pourra connaître ce monde. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons regarder, Seigneur, comment tu as merveilleusement agi, Seigneur, dans nos vies par le passé. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons dépendre constamment de toi, de ta parole, nous appuyer sur tes promesses. Et nous voulons craindre ton nom en obéissant à tes commandements. Nous voulons aussi, Seigneur, avancer avec foi dans ce monde trouble et agité, incertain. Nous voulons sortir de notre barque, Seigneur, comme Pierre, et marcher sur les eaux vers toi. Tu es celui qui a rendu ces eaux agitées solides sous les pieds de Pierre. Et nous voulons aussi expérimenter cela, Seigneur. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il souffle, qu'il y ait la tempête, qu'il y ait l'orage, Seigneur. Nous voulons avec foi. Tenis ferme, Seigneur, sur ce que tu as dit dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être humbles devant toi. Aide-nous à chercher ta face continuellement. Aide-nous à être reconnaissants. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bénis notre Église, Seigneur, bénis les frères et sœurs. Et donne-nous d'affronter 2021 avec sérénité, avec paix, avec joie. Parce que, Seigneur, toute œuvre qu'on fait en ton nom n'est jamais vaine. Sois glorifié, Seigneur, par nos vies et par nos manquements, par nos lacunes. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.